Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit Public, un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, la philosophe Monique Cantos-Perber, l'économiste Daniel Cohen, qui nous dira un mot tout à l'heure de son dernier livre, Il faut dire que les temps ont changé, la journaliste du Monde Sylvie Kaufmann et le politologue Dominique Régnier. Au sommaire de ce dimanche, après la vacance de Monsieur Hulot, où est la faille de cette rentrée politique? Et après le grand sommet Chine-Afrique et sur fond de nouvelles polémiques trumpiennes, Xi Jinping est-il en route vers le leadership mondial? Des milliers de personnes hier dans les rues de France, marchant pour le climat, et ces deux images juxtaposées. Celle d'un Nicolas Hulot, menton tremblant et voix pleine de larmes, quittant le ministère de l'Environnement, et celle de son successeur le lendemain sur France Inter, François de Rugy, tout en maîtrise de lui-même et de son discours. D'un côté, un Hulot, venu de la société civile, tourmenté, habité par le sort de la planète après un été d'incendie et de canicule, rêvant d'un changement de modèle, de paradigme. De l'autre, un Rugy, élu de longue date, assumant, disait-il, depuis des années, une vision moins idéologique et plus pragmatique de l'écologie, acceptant l'idée des petits pas et d'une temporalité politique nécessairement longue. D'un côté, une éthique de la conviction, de l'autre, une éthique de la responsabilité, aurait peut-être résumé Max Weber, souvent convoqué cette semaine. D'autres s'étaient souvenus ces derniers jours de cet aphorisme de Romain Gary. Dans la vie, toutes les réussites sont des échecs qui ont raté. Vision laborieuse de l'existence qui convenait assez bien à la rentrée de la majorité au pouvoir. Le président découvrant ce moment douloureux d'un quinquennat où le carrosse redevient citrouille, où le candidat investi par le peuple redevient un homme comme un autre. Et si Jupiter entravé n'était plus vraiment Jupiter, avait écrit Françoise Fressos cette semaine dans Le Monde. L'heure était au doute et chacun y allait de sa recommandation. L'économiste Jean Pisani-Ferry disait qu'il fallait changer de méthode. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, soulignait un manque d'humilité de l'exécutif. Après la vacance de M. Hulot, qui savait dire où était et quelle était la faille de cette rentrée politique?
J'ai le cœur qui est triste. J'ai l'esprit libre. J'ai la conscience tranquille. Mon cher François, je n'ai pas, en l'état, réussi à combler cette ligne de faille entre deux cultures, entre deux intelligences, l'économie et l'écologie. Mais ça n'est pas une fatalité. Et ce qui n'a pas été possible hier le sera, je l'espère, demain. Je m'éloigne, mais je ne vous abandonne pas. Beaucoup de larmes sont tombées depuis...
C'est un défi de mener la transformation écologique de la France comme nous menons la transformation de l'économie, de la santé, de l'éducation. À un moment donné, il faut avoir un peu le sens du devoir en politique. Il y a un défi lourd à relever, tout le monde le reconnaît, sur l'écologie. Tout le monde n'est pas prêt ensuite à le faire. Moi, ma conviction, c'est qu'on peut s'appuyer sur les Français. Les Français veulent qu'on fasse plus d'écologie. Pas n'importe comment, pas de façon brutale, mais ils veulent qu'on le fasse. Une écologie qui agit, une écologie positive, c'est mon orientation.
François de Rugy et bien sûr Nicolas Hulot, allégé par la musique du film des vacances de Monsieur Hulot. Dominique Régnier, ces marches pour le climat hier, un peu partout en France, populaires, citoyennes, qu'est-ce qu'elles nous disent des attentes des citoyens en matière d'écologie? Qu'attendent-ils aujourd'hui de l'État et que sont-ils prêts à faire eux-mêmes?
Alors, ces marches nous disent sans doute le haut niveau de préoccupation de la société pour ces questions environnementales en général, climatiques en particulier, qui sont maintenant appuyées dans leurs manifestations par des expériences qu'on peut tous faire, comme on l'a vu cet été, on en a maintenant la sensation. Ça ne fait aucun doute. Ensuite, il y a, me semble-t-il, je ne sais pas si les marches le révélaient, mais on le ressent dans le débat sur ces questions fondamentales, il y a un désarroi général entre le sentiment d'une urgente nécessité et, par ailleurs, le sentiment que ça n'est pas possible, quelque chose n'est pas possible. Peut-être c'est aussi ce qui était dans la décision de Nicolas Hulot, le dira-t-il un jour peut-être. C'est-à-dire que, au fond, par définition, par constitution, le sujet écologique et environnemental est un sujet global et planétaire. Nous savons tous, d'ailleurs, le climat lui-même, la question climatique est une question planétaire. Et tout se passe comme si on percevait en même temps la nécessité d'agir et l'impossibilité de le faire à la seule échelle d'une nation, même ambitieuse, comme la France, malgré tout nation moyenne, voire petite pour ces questions-là. Je prends un exemple pour illustrer ça. On a parlé d'ailleurs beaucoup dans les marches hier, ce qu'on voyait dans les calicots,
les slogans,
les banderoles, merci beaucoup, les slogans, on voyait des idées de décroissance. Le monde ne décroît pas, ne veut pas décroître, semble-t-il. Et si je prends un critère, un seul, qui à mon avis fait partie des impensés du débat environnemental, c'est la démographie. Il y a chaque jour 225 000 habitants de plus sur la planète. De plus, chaque jour. Ça fait chaque année 89 millions d'habitants en plus. On va dire que c'est un pays comme l'Allemagne, en population, grosso modo, grossièrement, mais peu importe. Si on applique à ce pays supplémentaire le PIB moyen, on a chaque année, en plus, une Pologne, ou des Pays-Bas, ou l'Argentine, ou le Pakistan. Chaque année. Ça veut dire que en 2050, on aura 32 pays en plus avec cette empreinte carbone, à supposer que tout le reste ne croise pas, hein, ne connaisse pas. Il y a un impensé. On sait bien que ça n'est pas possible, que nous allons avoir, de toute façon, aujourd'hui, avec les méthodes actuelles, une empreinte carbone beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. On ne voit pas comment on peut, à l'échelle de la France, et encore moins d'un ministère du gouvernement français, peser sur tout cela. Il me semble que c'est ce désarroi qu'il faut interroger. Ça a été dit, d'une certaine manière, dans la déclaration de démission, l'interview plutôt, de Nicolas Hulot. Il y a fait référence à la nécessité d'agir à l'échelle de la planète. Mais, alors c'est l'autre sujet ce matin de votre conversation, Émilie Aubry, mais si on observe des grandes puissances nouvelles comme la Chine, il y a des éléments qui vont dans ce sens. L'idée de décarboner, mais il y a des éléments qui vont dans un autre sens. Peut-être qu'on en dira un autre mot tout à l'heure. En tout cas, je trouve qu'il y a là quelque chose qu'il faudra arriver à affronter. Et puis, dernier élément, pour ne pas être trop long, mais dernier élément de l'impensé écologiste, qu'il va falloir que les écologistes clarifient. Est-ce qu'ils sont pour combattre le réchauffement climatique, c'est-à-dire décarboner l'économie, ou est-ce qu'ils sont contre le nucléaire? Il va falloir choisir, parce que nous avons à choisir, là, aujourd'hui. Si nous voulons décarboner, c'est-à-dire ralentir, si possible, le réchauffement climatique, il nous faudra produire de l'énergie sans hydrocarbures, sans charbon, sans pétrole, je dirais aussi sans gaz, mais le gaz peut produire de l'électricité dans des conditions relativement décarbonées, en tout cas très satisfaisantes aujourd'hui. Comment fait-on pour produire l'énergie dont nous sommes dépendants avant toute chose, quelle que soit la forme ou la source qui la produise? Le nucléaire en fait partie, c'est probablement même le plus performant des dispositifs de réponse. S'il y a une opposition aussi forte au nucléaire, on ne peut pas dire en même temps que l'on veut décarboner si on n'a pas une politique favorable au nucléaire.
Daniel Cohen, pour rebondir sur ce que disait à l'instant Dominique Régnier sur les impensés de ce débat-là, est-ce que ça fait sens aujourd'hui d'opposer dans la discussion sur l'écologie politique, d'un côté un modèle qui reposerait sur la décroissance et de l'autre un modèle qui reposerait sur la continuation d'une croissance, si possible d'une croissance verte?
Alors, un point d'abord sur cette question de la population que Dominique vient d'aborder, parce que c'est très important. L'histoire des deux derniers siècles, l'histoire de la révolution industrielle, qui est celle à cause de laquelle nous sommes en train de connaître ce réchauffement climatique, puisque c'est vraiment à partir de la fin du XVIIIe siècle que l'activité humaine commence à réchauffer l'atmosphère, c'est l'histoire d'une grande divergence entre les riches et les pauvres. Les riches, c'est-à-dire la France, les États-Unis, etc., se sont enrichis par habitant, et les pauvres ne se sont pas enrichis, en tout cas beaucoup moins, et ont eu en revanche une démographie beaucoup plus forte. Cette divergence est en train de se terminer, aussi bien du point de vue du revenu que du point de vue de la population. Il va y avoir encore des augmentations de population, on est à 7,5 milliards, en gros on va passer à 10, mais ça va stagner à partir du milieu du 21e siècle. Ce qui, en revanche, va changer, c'est que les pays pauvres aujourd'hui veulent s'enrichir. Ils veulent le même niveau de consommation que nous. C'est moins la hausse de la population qui est le problème que l'aspiration de ces populations pauvres à vivre comme nous.
Donc ils n'ont pas envie qu'on leur parle de décroissance, pour
voilà.
dire les choses
donc,
clairement.
Donc voilà, c'est ça la question. Mais s'ils veulent consommer comme nous, c'est juste pas possible. Si la Chine, par exemple, voulait consommer la même quantité de papier par tête que les Américains aujourd'hui, il faudrait tout simplement déforester la totalité de la planète. Donc, la question qui se pose, c'est urgemment, avant 2050, si c'est possible, trouver des technologies qui transforment et un mode d'existence qui fasse que ces pays émergents puissent converger vers des niveaux de revenus équivalents en termes de bien-être à celui que nous connaissons, sans faire la même chose que nous. Et c'est à nous, les pays les plus avancés, mais on voit que les Chinois veulent évidemment jouer leur partie, et les Indiens aussi, de réinventer notre société de consommation pour que ce soit possible. Si on n'y arrive pas, c'est simple, tout le monde le sait, la planète, comme disait Hulot, va devenir une étuve.
Et donc ça s'appelle comment ? Ça s'appelle la croissance verte,
la
pour
croissance
essayer de
pour
résumer
les
choses.
Émergents, c'est quelque chose qu'on ne peut pas leur retirer. C'est un autre type, donc même si nous on
un
va
autre
faire
type
moins,
de croissance.
C'est un autre type de croissance. Ce qui fait que nous, au 19e siècle, nous n'avons pas connu la trajectoire des pays aujourd'hui pauvres en matière de population. Si nous avons enrichit nos populations plutôt que d'en augmenter le nombre, c'est parce que, de manière totalement imprévue dans l'histoire, nous sommes passés d'un régime démographique qui est celui de la quantité, beaucoup d'enfants, le maximum d'enfants qu'on peut nourrir, à un autre régime que les économistes appellent une transition vers la qualité. On a eu beaucoup moins d'enfants et on s'en est occupé beaucoup mieux. C'est cette transformation intellectuelle, psychologique, sociale qu'il faut réaliser dans le rapport à la consommation aujourd'hui, réinventer, et on va ouvrir bien sûr dans cette discussion toutes les voies possibles, l'automobile, les transports, etc., mais réinventer notre rapport à la consommation, au bien-être, réinventer notre civilisation urbaine et ouvrir autant d'avenues que possible. Mais ce n'est pas une question de choix, veut-on, veut-on pas. C'est indispensable, sachant que si on ne le fait pas, nous, alors les pays émergents feront comme nous et ce sera la fin de la planète telle qu'on la connaît aujourd'hui.
Comment poser le débat entre, d'un côté, ce modèle d'une décroissance, de l'autre, celui d'une croissance verte? Est-ce que cela relève d'un choix ou non? En tout cas, lorsque l'on voit, Monique Cantos-Perber, l'image de ces deux hommes cette semaine, d'un côté Nicolas Hulot et François de Rugy. Alors, tout à l'heure, je disais que certains y ont vu l'incarnation de ce que Max Weber appelait l'opposition entre deux éthiques, l'éthique de conviction, l'éthique de responsabilité. Est-ce qu'en effet, là, avec ces deux images de la semaine, on est confronté à ce choix-là?
J'aurais plutôt tendance à penser que la démission de Nicolas Hulot traduisait une certaine forme de responsabilité à l'égard de ses convictions. Sans doute a-t-il eu le sentiment qu'il ne pouvait plus disposer des moyens concrets pour rendre véritables les valeurs que défendait sa conviction. De la responsabilité, le sens des responsabilités, il me semble qu'il en a fait preuve dans maintes circonstances. Et j'imagine que lorsqu'il a été sollicité pour devenir, pour ce poste de ministre, il a dû avoir une conversation avec le président. Il a dû restituer quels étaient ses objectifs en matière de transition énergétique, en matière de réduction de la production nucléaire. Il n'est pas opposé au nucléaire en tant que tel. Il attire l'attention sur les deux graves défauts du nucléaire, le traitement des déchets et le risque d'accident, aux conséquences évidemment considérables. En matière de biodiversité, qui est une cause qui lui le préoccupe énormément, etc. Donc il a dû parler de tout cela avec Emmanuel Macron, qui a fait valoir, et sans doute était-il d'accord sur ce point, que la transition énergétique, pour prendre que cet exemple, et plus généralement une politique écologique, c'est difficile à réaliser. Il faut du temps, ça va contre des intérêts économiques immédiats, qui sont légitimes, ça va contre des intérêts sociaux même, puisqu'il y a des professions qui vivent de ça. On ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Ça va contre les habitudes des consommateurs, ça amènerait un mode de consommation en effet très différent. Bref, ça ne peut pas se faire immédiatement, ça nécessite des arbitrages, reculer pour mieux sauter, composer. De tout cela, ils ont dû discuter. Et Nicolas Hulot en a fait de ces arbitrages. Il a même remporté certains succès. L'affaire de Notre-Dame-des-Landes, bon, je ne me prononce pas sur la manière dont a été ignoré ce vote démocratique. Mais enfin, en termes écologiques, c'était une bonne chose.
La fin de la recherche sur les hydrocarbures,
la fiscalité du diesel, le plan de rénovation des bâtiments, de rénovation énergétique des bâtiments, la fin de la production, de la filière...
Enfin, la fin programmée des énergies fossiles, en tout cas.
Donc tout ça, ce sont des acquis. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi a-t-il senti que l'arbitrage, le petit pas, éventuellement des conduites de détour, n'étaient plus possibles. Et sans doute l'a-t-il ressenti de manière violente, puisque la manière dont il a démissionné est vue de l'extérieur fort peu courtoise. On ne peut pas qu'un ministre démissionne sans prévenir le président ou le gouvernement dont il fait partie. C'est quand même une chose assez étonnante. Donc il a dû se sentir trahi, il a dû sentir très probablement que les valeurs qu'il servait n'avaient plus de sens, précisément, que ce qu'on l'amenait à faire d'évaluer le sens même de sa conviction, qu'au lieu de défendre une valeur, il était réduit au rôle de faire valoir. Alors, ça dit deux choses qui me paraissent importantes. L'une sur le mode de fonctionnement de ce gouvernement, mais j'espère que nous aurons l'occasion d'y revenir. Et puis l'autre, sur ce qu'est venu la politique. Alors, pardonnez-moi une toute petite digression philosophique sur ce sujet. Vous avez cité la conférence de Max Weber, éthique de la conviction, éthique de la responsabilité. Et puisque nous en parlons souvent dans cette émission, je voudrais apporter une précision sur les circonstances de cet exposé que Max Weber a fait. Il le tient à la fin du mois de janvier 1919, dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. L'Allemagne est en plein chaos, difficultés alimentaires, difficultés économiques, on ne sait même plus qui gouverne, il y a président, mais bon, sans beaucoup de pouvoir, il y a des insurrections permanentes d'extrême droite, d'extrême gauche, on est trois jours, fin janvier 19, on est trois jours avant l'assassinat de Kurt Eisner, le chancelier socialiste, on est même pas deux mois avant l'instauration de la République des Soviets de Bavière à Munich, et 4 ans avant le putsch de Hitler à la Brasserie.
Bon, heureusement quelques éléments contextuels, en effet, assez fondamentaux.
De Weimar à la fin de l'année 19, qui va redonner espoir à certains. Mais le cours ultérieur des événements a montré que ce n'était pas pour longtemps. En tout cas, Max Weber réunit des étudiants indépendants, dans une librairie. Il fait deux conférences, la science comme vocation et la politique comme vocation. Et là, il propose l'opposition entre deux éthiques, celle de la conviction, c'est-à-dire de celui qui dit « je ne suis responsable que de ma pureté morale », les conséquences catastrophiques qui découleraient de mes actions, ce n'est pas mon affaire, c'est dû à la méchanceté des hommes, c'est dû à l'imperfection du monde, s'il y a un responsable, c'est Dieu, ce n'est pas moi. Et par opposition à cette figure de la moralité, il y a celui qui défend l'éthique de la responsabilité, qui intègre la méchanceté des hommes et la perfection du monde dans la définition même du cours de ses actions. Lorsque Max Weber fait cette conférence, il a devant lui des étudiants, dans un pays en plein chaos. Parmi ces étudiants, il y en auront qui participeront aux soviets de Bavière. Il y en aura qui participeront aux soviets de Bavière et qui peut-être même, pour certains, participeront aux autres déviances politiques que l'Allemagne va connaître. C'est une charge contre le fanatisme politique, c'est une charge contre la politique de la conviction, parce qu'elle est complète, elle est au fond profondément immorale. Alors l'idéal, c'est d'associer les deux. Il faut de la conviction et de la responsabilité. Il faut la responsabilité de sa conviction, la grande expression de tout à l'heure. Il ne faut pas non plus une responsabilité qui ne sait même plus quelle conviction elle sert. Donc ni l'un ni l'autre, pris de manière isolée, ça ne convient, bien évidemment. Mais je suggérerais une chose, c'est que la responsabilité dont on pourrait parler à propos de Nicolas Hulot et qui expliquera sa démission, c'est pas la responsabilité au sens de Max Weber, c'est-à-dire intégrer son conséquent. C'est ce qu'on appelle la compromission, les petits arrangements, les calculs électoraux, les intérêts à servir. Alors il faudrait que Max Weber revienne, fasse une troisième conférence, la politique comme compromis.
Merci beaucoup Monique Cantosper. Appelons Max Weber en effet pour qu'il nous rejoigne par exemple dimanche prochain, en attendant de façon beaucoup plus présente. En tout cas, réinscrivons-nous dans le temps présent avec vous Sylvie Kaufmann. C'est vrai que cette démission de Nicolas Hulot, elle fait dire à certains qu'on y voit les limites du fameux concept Macron du en même temps. Pour d'autres, au contraire, c'est Nicolas Hulot qui aurait renoncé au en même temps.
Oui, il y a deux problèmes en réalité que soulève cette démission. C'est d'une part le choix de faire participer des ministres de la société civile au gouvernement. Et les limites, bien entendu, on voit bien l'attrait de cette participation et de ces personnalités, en particulier de quelqu'un comme Nicolas Hulot. On en voit maintenant les limites, c'est-à-dire, moi j'étais très frappée dans ces explications avancées par Nicolas Hulot à sa démission. démission, c'est, il dit, je n'avais personne sur qui m'appuyer, je n'avais pas de société structurée derrière moi. Et voilà, c'est ça aussi la limite de ces ministres. C'est incroyable. C'est là qu'on voit aussi le décalage entre ce que soulignait, ce désarroi que soulignait Dominique Reynier tout à l'heure, la pénétration du problème écologique, du danger écologique, de l'urgence écologique dans l'opinion publique et la très faible expression politique de ce sentiment d'urgence. Et donc c'est de ça qu'a pâti Nicolas Hulot, c'est de ça que pâtissent les écologistes depuis très longtemps. Quand on voit ce qu'ils font aux élections depuis tant d'années, c'est dérisoire. Donc là, il y a vraiment un énorme décalage qui tient à la fois au problème de l'écologie, de la politique et de l'économie, et puis au problème donc de cette tentative d'intégration de la société, de personnalité de la société civile au gouvernement. L'autre problème que soulève cette démission, c'est le fond du problème écologique et ce décalage entre le défi qui a été décrit par Daniel Cohen et entre parenthèses, quand vous dites les pays pauvres, ils feront comme nous, ils font déjà comme nous, parce qu'il y a combien, 800 millions de personnes qui ont été sorties de l'extrême pauvreté dans le monde grâce à la mondialisation, et ces personnes, elles consomment déjà comme nous, elles prennent des transports aériens, on voit bien, on parle tout le temps des Chinois qui mangent de plus en plus de viande, voilà, ce qui accroît les émissions de...
Ou les classes moyennes indiennes qui accèdent à la voiture grâce à la Tata Mobile qui ne coûte rien.
Donc, on est déjà dans cette urgence-là. Et puis, donc ce décalage entre cette urgence déjà mondiale et puis la réalité vue de France qui, pour donner un exemple de la taille de ces problèmes, enfin comparatifs, la France participe pour moins de 1% aux émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Notamment grâce à l'énergie nucléaire, en effet, ce qui repose ce problème du choix nucléaire qui s'est posé à Nicolas Hulot et qui se pose maintenant à son successeur, bien entendu, mais sur lequel, en France, on n'a pas... Je crois qu'on tourne autour de cette question. On a bien vu qu'en Allemagne, la solution n'a pas été donnée, puisque Angela Merkel a voulu modifier radicalement le mix énergétique. Et qu'est-ce qu'ont fait les Allemands? Ils ont ramené le charbon.
Le charbon.
Voilà. Donc nous, on n'a pas, on ne va pas au fond. On a cet énorme débat devant nous, puisque on produit énormément. Je ne sais plus quelle est la proportion d'énergie nucléaire, d'électricité que produit l'énergie nucléaire en France. Voilà, 70%. Donc on voit bien que Nicolas Hulot, c'est une des couleuvres, entre guillemets, qu'il a dû avaler.
Puisque c'est lui qui a dû annoncer qu'on n'abaisserait pas à 50% la part de nucléaire dans l'électricité, que c'était reporté de 2025 à 2030 ou 2035.
On ne sait pas encore, voilà. On a ce problème tout à fait vraiment maintenant brûlant, c'est le cas de le dire, en face de nous. Et puis je crois qu'il y a aussi un décalage entre les solutions proposées, entre le Big Bang que préconise des gens comme Pascal Canfin par exemple, et les petits pas auxquels on dit qu'on se limite maintenant. Est-ce que c'est vraiment la seule alternative? Voilà, et je crois que ça aussi c'est un échec de Nicolas Hulot, des écologistes, des dirigeants écologistes, c'est que ils ne sont pas arrivés jusqu'ici à offrir une vision à tous ces gens qui comprennent l'urgence, qui en sont conscients, qui en souffrent, qui voudraient agir, mais auxquels on offre soit une sorte d'écologie punitive, qui, en plus, un Big Bang qui, comme vous le disiez, est absolument inapplicable maintenant. Les Français ne sont pas prêts à changer totalement de modèle économique, c'est évident.
C'est ce que disait François de Rugy sur France Inter le lendemain de sa nomination, à savoir, finalement, tout le monde aujourd'hui a pris conscience de cette urgence écologique, et en même temps, lorsqu'on est un responsable politique, Daniel Cohen, on doit prendre en considération le contexte, c'est-à-dire l'urgence pour cette majorité de faire baisser le chômage, d'éviter la montée du populisme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se lancer aujourd'hui dans des ruptures définitives avec le nucléaire, avec l'industrie automobile. C'est le discours de François de Rugy. Qu'est-ce qu'on peut lui opposer ?
Vraiment beaucoup de choses. D'abord, le fait que, en effet, ce gouvernement s'appuie sur des membres de la société civile est indiscutable. Nicolas Hulot en fait partie, mais il n'est pas exactement comme les autres. Il n'est pas comme Agnès Buzyn, médecin. Il n'est pas comme comme Blanquer, bon spécialiste réputé d'éducation, ou Vidal, Dominique Vidal, ancien universitaire, président d'université, qui devient ministre d'enseignement supérieur. Lui, c'était un symbole. C'est à ce titre qu'il a été nommé, et c'est ce symbole qu'on a tout de même esquinté au fil du temps. Il avait un plan vélo et qui a été reporté parce que on n'arrivait même pas à se mettre d'accord sur le quantum de subventions pour les vélos électriques. Le coût des subventions pour les vélos électriques, c'est 30 millions, je crois, peut-être 40, je sais pas. Mais voilà, les ordres de grandeur, on a rogné là-dessus. C'est-à-dire qu'on prend un symbole et on n'est même pas capable de prendre des mesures symboliques. Alors le nucléaire, c'est un sujet en soi, mais la France, l'année dernière, est l'un des seuls pays, peut-être le seul des grands pays, dont les émissions de CO2 ont cru l'année dernière, alors qu'ils ont baissé en Allemagne et qu'ils ont baissé assez significativement. Non, moins 0,2 dans les chiffres qui ont été publiés sur 2017. Mais enfin bon, nous, c'est plus 3. Le Danemark, moins 6%. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à faire. Alors, on dit qu'il y a eu un mauvais climat, mais même en corrigeant par le climat, on est à plus 2%. Comparons à ce qui se fait ailleurs. L'Inde, dont on parlait, a un objectif zéro voiture thermique à la vente, pas dans le stock, en 2030. Nous, on discute de 2040, alors qu'on devrait être les leaders technologiques et que nos producteurs ne demanderaient que ça, qu'on leur donne un objectif qui leur permette de renouveler le parc. La Suède, fiscalité écologique, 10 fois supérieure à la nôtre, qui a permis des baisses d'impôts ailleurs. C'est pas en plus, c'est des jeux de vases communicants qui ont fait que, d'ailleurs, entre autres choses, les Suédois ont aboli les impôts sur le capital en le finançant par les impôts sur le CO2. Ça, c'est pour la droite. Mais ils ont aussi financé des baisses de charges très significatives sur le travail grâce à la fiscalité écologique. Ils ont mis 20 ans, personne ne parle de le faire demain. Où est ce leadership? Où est cette vision qui permettrait de dire on œuvre à ça? Maintenant, la France, ça n'est que 1%, c'est tout petit, c'est pas grâce au nucléaire qu'on ne fait que 1%. C'est parce qu'on n'est que 1% de la population mondiale, 65 millions sur 7 milliards et demi. En fait, on est en termes de consommation exactement à la moyenne planétaire, 7 tonnes par habitant. Et si on inclut les importations qui nous permettent de masquer ce qu'on consomme, on est à 10 tonnes par habitant. Il faut descendre à 2 tonnes par habitant en 2050 si on veut tenir ce défi. Donc tout nucléarisé que nous soyons, nous sommes encore très très loin du compte. Mais la France, comme les pays avancés, encore une fois, ont un rôle dans la transition vers un nouveau modèle de croissance. Le gouverneur de Californie, Jerry Brown, après les déclarations de Trump, remettant en cause les accords sur le climat, a dit « Nous continuons et je veux que la Californie, en 2050, soit below two, sous les deux. Les 2 degrés, les 2 tonnes par habitant. » Et j'étais à une conférence donnée à l'École normale supérieure quand il est venu, je dis « Vous inversez, en disant ça, toutes les théories sur le fait qu'il faut qu'on y aille tous, sinon personne ne voudra le faire. Vous montrez qu'en voulant y aller seul, vous donnez un objectif que les autres peuvent suivre parce que vous allez trouver les technologies qui le fassent. C'est pas la responsabilité de la Californie seulement, c'est la responsabilité des pays avancés de trouver, d'inventer pour le reste du monde, même si nous ne pesons que 1%. Le mode de vivre, d'existence qui permet d'atteindre cet objectif.
Mais Dominique Régnier.
C'est l'échec de Hulot. Voilà. C'est que même sur des choses qui sont des engagements en voiture, en transport, en vélo, des engagements en fiscalité que les Suédois ont mis en œuvre sans nullement nuire à la compétitivité de l'économie suédoise qui est petite, ouverte et qui ne peut pas se permettre de jouer avec ça, on ne voit pas le souffle. Et donc, il se rend compte lui-même qu'il est un symbole qui ne sert pas. Et donc, il s'en va. Je crois que c'est tout à fait logique.
Donc, Dominique Régnier, est-ce que vous êtes d'accord avec Daniel Cohen pour dire que finalement, il n'y a pas de leadership français sur ces sujets écologiques, alors même qu'il y a eu la formule « Make our planet great again » au début
et la COP 21,
bien sûr, mais ça, c'était dans le quinquennat précédent, qu'il n'y a pas ce leadership français là aujourd'hui sur ces sujets-là?
Non, il n'y a pas ce leadership. La COP21 était effectivement un très bon exemple de ce qu'il faut faire. Juste une remarque quand même sur ce qui n'a pas été réussi. La responsabilité des écologistes organisés politiquement est considérable. Ce sont eux, je le rappelle, qui n'ont pas voulu de Nicolas Hulot au passage en 2012 et qui ont probablement marché hier contre le réchauffement climatique. Et ce sont eux qui ont retiré leur candidat en 2017 alors qu'ils pouvaient porter leur message. 3,3%, c'est le score moyen des candidats écologistes au premier tour de la présidentielle. Je voudrais juste ajouter, mais on le laissera au contrôle et à la discussion de nos auditeurs. Pour moi, l'Allemagne recarbone, elles n'ont pas décarbone et son passage au charbon est désastreux. Le Danemark est en train d'abandonner son plan d'énergie renouvelable, en particulier sur l'éolien. Et ne pas oublier, quand on installe une éolienne, il faut 1200 tonnes de béton par éolienne. Donc c'est pas, on est loin d'avoir trouvé des solutions.
C'est d'ailleurs à mettre au crédit de Nicolas Hulot, hein, c'est qu'il a accéléré l'installation des parcs éoliens en France, oui, grâce à la simplification des procédures. Mais ça, c'est vraiment l'un des combats qu'il a pu mener jusqu'au bout.
L'éolien n'est pas une réponse encore tout à fait expertisée, avec une très très faible rentabilité en termes de production d'énergie. Il en faudrait énormément pour compenser ce dont nous avons besoin. Il y a un vrai sujet technologique, et sans doute que l'innovation, la recherche sera une des clés pour répondre à tout cela. Mais je ne crois pas qu'on puisse, dans le temps qui nous reste, quand on dit 2050, je pense qu'il faudrait aussi interroger l'hypothèse d'une impossibilité que l'on fasse tout cela, et donc organiser nos sociétés pour résister aux conséquences du réchauffement climatique.
Prochaine COP bientôt, d'ailleurs dans quelques mois, en Pologne. Élément de conclusion, Monique Kantos-Perber, sur cette première partie.
Les déconvenues du parti écologiste ne doivent en aucun cas réduire ou dévaluer la cause écologique. C'est une cause qui peut être portée par tous les partis. La France avait un rôle symbolique extrêmement important à cause de la COP 21, à cause de son engagement. C'est un pays qu'on regarde et sur lequel on prend modèle. Et je suis tout de même frappée que le débat écologique ne puisse pas être posé en des termes démocratiques. Il y aura des intérêts lésés, il y aura de nouvelles habitudes coûteuses à prendre. C'est un débat auquel tous les citoyens peuvent participer. Et il me semble que l'efficacité des mesures difficiles à accepter qui seront proposées, leur taux d'acceptabilité sera beaucoup plus grand que les citoyens auront été engagés, investis. L'initiative d'hier est tout à fait louable dans ce sens, mais il devrait y avoir constamment des débats là-dessus. Que sommes-nous prêts à sacrifier et accepter cela? Par ailleurs, j'insiste sur le rôle de la recherche et de l'innovation. Là aussi, comme l'a dit Dominique, la France est en position de leader en matière de recherche sur la photosynthèse, sur la voiture électrique. Donc là, il y a des voies considérables à développer qui sont celles qui peuvent rendre crédible un changement de mode de vie.
La question du débat démocratique et citoyen, qui sera d'ailleurs au cœur de l'émission de Julie Gacon ce soir dans Dimanche et Après, c'est son sujet cette semaine. Merci Monique Kantos-Perber. À présent, on va changer de pays, changer de continent, changer d'échelle, changer de système. Bienvenue en Chine, où se déroulait cette semaine à Pékin un grand show diplomatique.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
Des dizaines de danseuses en costume traditionnel formant une haie d'honneur pour accueillir les 53 chefs d'État et de gouvernement africains invités cette semaine à Pékin, et un véritable concours de sourires réjouis. Il faut dire qu'en diplomatie aussi, le bonheur c'est simple comme un gros chèque. En l'occurrence ici, un très gros chèque, 52 milliards d'euros promis par Xi Jinping pour le développement de l'Afrique. Cette Chine qui chaque jour semblait de plus en plus tisser cette toile infiniment habile, discrète et efficace qui la conduisait à ne plus être seulement une superpuissance économique mais également une puissance diplomatique qui se mettait à donner le la des grands événements internationaux, parlant multilatéralisme quand l'Amérique de Donald Trump ne le faisait plus, même s'il n'était pas sûr que Xi Jinping donnât à ce mot la même signification que les Occidentaux, une puissance chinoise installant sa première base militaire hors de ses frontières à Djibouti, une Chine devenant premier pays fournisseur de casques bleus à l'ONU. Et puis surtout, une Chine arrangeante comme tout avec tout le monde, promettant aux États africains son aide, mais en précisant qu'elle ne demanderait en retour aucun droit de regard sur les affaires intérieures. Arrangeante comme tout également avec la Russie de Vladimir Poutine, qu'elle se préparait à aider pour reconstruire la Syrie, dès lors que la dernière poche de résistance d'Idlib serait écrasée. Pendant ce temps, Donald Trump semblait perdre de vue ce qui avait été l'un des credos du maître de la diplomatie américaine Henry Kissinger, toujours faire en sorte que l'Amérique soit proche de la Russie et de la Chine pour éviter que celle-ci ne se rapproche sur le dos de l'Amérique. À l'inverse, Trump se fâchait avec à peu près tout le monde, davantage préoccupé à traquer la taupe qui avait dénoncé dans le New York Times la folie de sa présidence qu'à sauver ce qui lui restait de leadership. Alors à la question « qui désormais dirigeait le monde ?», une partie de la réponse se trouvait désormais sur le continent asiatique.
Mesdames et messieurs, chers amis, en ce bon mois de septembre, moment bien agréable à Beijing, Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous, chers amis anciens et nouveaux, à l'occasion de ce grand événement de la grande famille Chine-Afrique, qu'est le sommet de Beijing 2018 du Forum sur la coopération sino-africaine.
Voilà le grand discours d'accueil de Xi Jinping cette semaine à l'occasion de ce grand sommet sino-africain. Sylvie Kaufmann, finalement, ce que nous raconte cette folle semaine géopolitique, c'est une Chine qui n'en finit plus de se déployer, une Amérique qui n'en finit plus de se replier et une Russie qui parvient à ses fins sur presque toutes ses zones d'influence, et notamment à Idlib et notamment en Syrie.
Oui, enfin, je pense que le premier pays que vous avez cité, la Chine, est probablement le facteur le plus important dans cette recomposition. Sans vouloir minorer le rôle négatif de la politique de Donald Trump, mais ce qu'on voit à l'œuvre avec ce sommet Chine-Afrique, c'est une dynamique qui est la même depuis 2012, depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, et qui s'accentue. C'est que autant les prédécesseurs de Xi Jinping, Deng Xiaoping et ses successeurs et voulait faire monter la Chine doucement, alors suivant le fameux adage, la fameuse phrase de Deng Xiaoping, cacher ses talents et attendre son heure, et s'insérer dans l'ordre mondial et en profiter, l'idée était d'intégrer la Chine dans l'ordre mondial pour qu'elle puisse en profiter et croître. On voit qu'avec Xi Jinping, on est dans une autre logique qui est une montée en puissance toujours, mais de plus en plus, on voit que finalement la Chine tend à modifier l'ordre mondial pour le faire correspondre à ses intérêts. Et évidemment, en parallèle, on a donc ce retrait, si on peut dire, des États-Unis de la scène mondiale, une politique aussi très agressive sur le plan commercial qui évidemment cible directement la Chine. Donc on a ces deux dynamiques qui maintenant jouent en même temps. La Russie, je dirais pour l'instant.
Je parlais en tout cas de la zone syrienne.
Syrie, bien entendu, elle est maîtresse du jeu en Syrie, tout
au
à
moment
fait.
Où il y a cette actualité d'Idlib, voilà, absolument, au moment
absolument.
Où nous
parlons. Et puis on a aussi, ça fait partie de la recomposition, c'est vrai, mais on a aussi ces manœuvres militaires là qui vont commencer cette semaine, oui. Vostok 2018, qui sont des manœuvres d'une envergure absolument
totalement inédite,
impressionnante, oui. Donc dans l'extrême-orient russe et qui implique 300 000 hommes, ce qui est
expliquer pour ceux qui nous écoutent, c'est une grande démonstration de puissance militaire de la Russie, ouais, de Poutine qui se prépare ces prochains jours.
Oui, oui, absolument. 300 000 hommes, c'est énorme. Des manœuvres militaires avec 300 000 hommes et je ne sais combien d'avions et de navires. Et les Chinois, pour montrer, bien entendu, pour étaler la puissance russe. Mais c'est la puissance militaire russe. Après, la puissance économique russe, on sait bien qu'elle n'est, oui, pas du tout à la hauteur. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ces manœuvres ont été invités des troupes chinoises. Il y a 3000 soldats chinois qui participeront à ces manœuvres. Donc là, on voit en effet cette recomposition géopolitique qui est en marche. Voilà. Après la puissance chinoise, on va en parler dans tous ces détails, mais elle est multiface. Elle n'est pas non plus juste uniforme. Elle n'est pas univoque. Il y a des tas d'endroits où les Chinois ne parviennent pas à leur fin.
Est-ce que cela veut dire que dans les ambitions de Xi Jinping aujourd'hui, Daniel Cohen, il y a l'ambition de devenir une hyperpuissance, mais au sens où nous l'entendions dans le monde d'avant?
C'est jamais exactement la même chose, mais oui, on peut faire des parallélismes. La grande question en Europe au 19e siècle, on en parlait tout à l'heure, c'était la montée de l'Allemagne. C'est à peu près, rétrospectivement, la seule chose qu'il fallait surveiller. Et pour beaucoup de commentateurs en géopolitique, c'est exactement la même chose au 21e siècle, avec effectivement les mêmes risques, la montée de la Chine. Voilà. Et tous les analystes reprochent à Trump de ne pas comprendre ça, au lieu de se préparer à cette complémentarité ou à cette rivalité, parce que là, l'histoire n'est pas écrite, il fait tout pour favoriser favoriser l'émergence de la Chine comme puissance de substitution
juste
à celle des États-Unis.
Juste un point, par exemple, mais très symbolique cette semaine, hein, c'était dans le New York Times cette semaine, le 3 septembre, qui annonçait que les États-Unis envisageaient de retirer leurs troupes au Niger, en Tunisie, au Cameroun, en Libye, au Kenya, pour ne rester finalement durablement que au Nigeria, en Somalie. Or, symboliquement, le même jour, Pékin renforçait sa coopération militaire avec l'Afrique. Et finalement, des parallélismes comme ça, on en trouve très régulièrement désormais dans l'actualité géopolitique.
Bien sûr, les Chinois vont établir une base à Djibouti après avoir... après avoir construit une ligne de chemin de fer Addis Abeba à Djibouti, qui était absolument vitale pour l'Éthiopie, puisque l'Éthiopie n'a pas d'accès à la mer, et donc cette chose-là est était tout à fait vitale. Il y avait, à la fin, quand le mur de Berlin est tombé, il y avait ce qu'on appelait le consensus de Washington, hein, c'est un peu théorisé par Fukuyama. On rentre dans une ère où il y a un seul modèle, le modèle du marché de la démocratie, et tout le monde allait s'y rallier. Je crois qu'on est en train de parler, pour beaucoup de pays, du consensus de Pékin maintenant. Le consensus de Pékin, c'est presque exactement le contraire du consensus de Washington. C'est faites exactement ce que vous voulez en interne, pourvu que vous achetiez nos produits et vous nous vendiez vos matières premières. Et c'est en train de très bien fonctionner parce que c'est très attractif pour beaucoup de pays qui sont encore à la lisière de la démocratie et qui croyaient que c'était la règle du jeu obligée pour avoir des relations durables et normales avec les États-Unis, qui se rendent compte que finalement c'est pas aussi obligatoire que ça. Alors maintenant un mot sur l'Afrique. Bon, on a parlé tout à l'heure de la question démographique. Il va y avoir 2,5 milliards de gens en plus sur Terre, d'humains en plus sur Terre d'ici 2050. La moitié vont venir d'Afrique. Il va y avoir un doublement de la population africaine de 1,2 à 2,5 à peu près. Donc 1,2 de plus, la moitié des 2,5, si vous me suivez, d'humains qui vont venir sur Terre. Qui s'occupe de l'Afrique? On va avoir 2,5 milliards d'Africains dénués de ressources éducatives qui vont être les premières victimes du réchauffement climatique dont on parle, qui vont avoir besoin de scolariser leur population, qui vont avoir d'immenses besoins en infrastructures pour pouvoir soutenir cette population et leur donner des conditions de vie décentes. Les Chinois sont à peu près les seuls qui prennent ce défi au sérieux, qui comprennent qu'il faut mobiliser des ressources, qui comprennent qu'il faut construire des infrastructures. Et les Européens, dont ça devrait être la terre de mission, on peut dire d'une certaine manière que les États-Unis ont veillé à l'Asie, bon, maladroitement avec la guerre du Vietnam, et plus sérieusement avec le Japon et les quatre dragons qui ont fleuri ensuite. L'Afrique devrait être la terre de mission des Européens. Nous sommes absolument incapables de nous en occuper, d'y avoir les technologies adaptées, les ressources adaptées. Les Africains prennent ça au sérieux. C'est à leur échelle. Il y a aujourd'hui à peu près autant d'Africains que de Chinois. Il y en aura deux fois plus, encore une fois, dans 50 ans. C'est à leur échelle. Ils ont des ressources financières considérables. Ils ont accumulé des réserves qui font à peu près deux fois le PIB français en cash, en liquidité.
Ce qui est quand même la différence principale avec les Européens, notamment.
Une grosse différence. Et puis aussi, peut-être surtout, indépendamment de la question politique, qui est très important pour leurs interlocuteurs, ils ont des technologies adaptées. La Chine est encore un pays pauvre. Elle est cinq fois plus pauvre, ça dépend des mesures qu'on prend, mais nominalement, et facialement, ils sont à 10 000 dollars par tête, les Américains sont à 50 000 dollars par tête. Ce sont des rapports qui restent très significatifs, considérables. Et donc les technologies qu'ils utilisent, même si dans certains cas, le photovoltaïque et autres, ils sont à la pointe, mais pour le téléphone, pour toutes sortes de choses comme ça, ils ont des technologies intermédiaires adaptées à leur pays. Donc, ils ont les ressources, ils ont les technologies, et ils ont la volonté politique. Donc ça fait beaucoup de choses. Alors maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, la seule question peut-être au fond qui devrait compter, c'est est-ce que c'est une si bonne nouvelle que ça pour l'Afrique ? Dans cet exemple-là, c'est pas tout à fait sûr. Parce que si seul usage que les Chinois veulent faire des Africains, c'est des réserves de matières premières, ça veut dire que les Africains vont être cantonnés dans la division internationale, enfin sino-internationale du travail, à ce rôle d'extraction de matières premières qui entraîne toujours d'ailleurs ce lot de corruption qui explique en grande partie les difficultés politiques de l'Afrique, sans avoir véritablement de voie de croissance. Voilà, le vrai risque, il est celui-là, et c'est celui auquel les Africains devraient être le plus sensibles. Donc la ligne de chemin de fer Addis Abeba et Djibouti, elle est intéressante de ce point de vue-là, parce que l'Éthiopie n'est pas un pays exportateur de matières premières, c'est un pays exportateur de travail, donc que les Chinois s'y intéressent, peut vouloir dire qu'ils ont en tête, au fond, lorsque leur propre richesse avancera, de trouver
pour eux-mêmes un réservoir de main-d'œuvre équivalent à celui que eux-mêmes ont fourni aux États-Unis à leur période de croissance. Donc tout ça est très ouvert. Du point de vue des droits de l'homme, il faut, je pense, vraiment s'inquiéter de ce qui est en train de se passer, être très attentif politiquement. Mais si la seule chose comme protestation qu'on a opposée à cette emprise de la Chine sur l'Afrique, c'est les droits de l'homme, ça ne va pas suffire à convaincre les Africains qui devraient renoncer à un partenariat bien tangible pour quelque chose qui reste très virtuel.
Ce qu'a très bien compris en effet Xi Jinping, Dominique Régnier, je vous invite à écouter son discours admirablement bien traduit en français qu'on peut trouver partout sur Internet. Ce discours où il explique justement aux Africains, avec plein de sous-entendus, qu'il va aider, que la Chine va aider le continent africain, mais sans rien demander en retour. Évidemment, contrairement au monde occidental. C'est-à-dire, nous allons vous aider, mais nous ne nous mêlerons pas de vos affaires intérieures. En effet, qu'est-ce que ça veut dire sur une nouvelle donne internationale, un nouveau fonctionnement des relations internationales ?
Il a formalisé la doctrine des cinq non, cinq refus, et qui, évidemment, se lie en comme une définition en creux de tout ce qu'a fait, supposé avoir fait l'Occident et l'Europe en particulier en Afrique. Je me disais, en suivant cette actualité, Kant et Machiavel sont dans un bateau, Kant tombe à l'eau à tous les coups. Il faut faire attention parce qu'on a sur la Chine un discours qui me paraît encore aujourd'hui marqué par l'éblouissement de l'intensité de nos échanges économiques. Et assez, au fond, complaisant, voire laxiste sur ce qui est en train de se passer en Chine. Naïf. Sur le plan intérieur, peut-être qu'on en parlera une autre fois, je ne sais pas. C'est un pouvoir sans précédent. D'ailleurs, du point de vue de l'histoire des pouvoirs qui ont existé dans notre long passé commun, nous les humains, quelque chose de nouveau là est en train d'apparaître qui n'est pas sans poser problème. Ce qui va arriver aux Africains dans cette affaire, Daniel Cohen le disait à l'instant, mais quand on regarde au Gabon et que l'on voit des images d'agriculteurs africains la tête en sang parce que leur cadre chinois armé de bâtons les frappe parce qu'ils ne vont pas assez vite, je ne suis pas sûr que les cinq noms soient respectés et qu'on n'ait pas une pire situation pour les Africains eux-mêmes. Je ne parle pas de leurs chefs qui probablement vont être choyés, mais plutôt des Africains eux-mêmes. Donc là, il y a un grand sujet. Les Chinois ont une base à Djibouti, ils vont en avoir une autre en Méditerranée, on ne sait pas où, mais il y en aura une autre en Méditerranée dans quelques temps, elle sera annoncée. Ils construisent chaque année en flotte militaire l'équivalent de la flotte française militaire. Ils ont construit, alors ça rejoint le premier point, mais je pense qu'il faut quand même le souligner, parce que ça dit aussi leur façon de se comporter. Depuis 2000, on peut le comprendre, mais 100 aéroports de plus... 90 aéroports sont en construction aujourd'hui, donc on peut arrêter Notre-Dame-des-Landes, mais il y a 90 aéroports chinois qui se construisent, 90 centrales nucléaires. Ils vont construire 130 centrales nucléaires le long de la route de la soie. Donc c'est un pays qui, en quelque sorte, nous montre que malgré tout, ce qui va rester sont... Et c'est comme ça, ce sont les États, et surtout quand ils ont la puissance avec eux, ce qui va rester sa ligne d'horizon, c'est son intérêt d'État. Et je ne crois pas, ils font des efforts pour décarboner, mais ils carbonent beaucoup parce qu'ils font 50% du charbon planétaire, c'est eux. Et comme ils ont besoin...
Ils sont leaders sur les panneaux solaires tout en continuant de développer le charbon.
Et sachant que les panneaux solaires ne sont pas, on le sait, sans poser d'énormes problèmes de santé publique, etc. Mais juste pour dire qu'ils ne vont pas renoncer à l'accroissement de leur puissance, parce que c'est une politique de puissance, comme nous avons eu la nôtre. On ne sait pas comment on va les réguler, mais il ne faut pas jeter là-dessus un regard trop, je dirais, trop rapide ou trop naïf.
Monique Kantosperber, la chercheuse Alice Ekman, qui est spécialiste de la Chine, qui vient d'ailleurs d'écrire un livre tout à fait passionnant avec la France compte de meilleurs spécialistes de la Chine, pour nous expliquer notamment comment Xi Jinping entend faire désormais de son pays une puissance normative. Alors je disais tout à l'heure, donner le « la » des relations internationales, il parle beaucoup de multilatéralisme par exemple, sauf qu'il n'y met plus la même définition. Il reprend les mots du monde d'hier en les définissant autrement de facto.
C'est tout à fait clair, et l'expression d'ailleurs route et ceinture de l'initiative, c'est road and belt initiative en anglais, le dit tout à fait clairement. Il s'agit de connexion, de liaison, il ne s'agit pas d'emprise territoriale. Donc on n'est pas du tout dans un schéma impérialiste d'autrefois, ce qui était peut-être la visée de l'Allemagne. Là, non, on est dans quelque chose de tout à fait différent. Il s'agit plus d'influence et de projection. D'ailleurs, l'action en Afrique est tout à fait intéressante à cet égard, comme ça a été remarquablement dit. Il ne s'agit pas pour l'instant de vassaliser. Il s'agit d'avoir des alliés. Vous savez, les votes des pays africains à l'ONU, ça compte beaucoup. Il s'agit de faire en sorte que ces pays ne se rebellent pas, ne rompent pas, restent des obligés. Éventuellement, pour certains d'entre eux, se détachent de Taïwan. Ceux qui étaient concernés l'ont fait sans tarder, sauf un. Le but est aussi d'écarter les autres. En effet, les États-Unis et la France sont maintenant passés derrière la présence chinoise en Afrique, d'avoir des débouchés commerciaux, d'être protégés contre les attaques terroristes. Je pense que le port à Djibouti, c'est essentiellement ça, bien évidemment. Mais bref, est-ce très différent de ce qu'on appelait la France-Afrique dans les années 70? C'est un peu la même chose. Alors sur le multilatéralisme...
À une échelle évidemment fort différente.
Très différente, mais la logique est au fond assez la même, simplement dans le monde d'aujourd'hui. Exactement comme vous le disiez, le même mot, mais avec un sens légèrement différent. Alors sur le multilatéralisme et les normes, il est vrai que c'est vraiment la question qu'on peut se poser quand Trump s'est retiré du traité transpacifique. La Chine, à ce moment-là, step in, tout de suite est arrivée pour prendre la place et on se disait, ah ben maintenant, ce sera la Chine le leader normatif. Alors, je voudrais répondre en deux temps aux questions que cela pose. D'abord, sur le multilatéralisme. Oui, la Chine joue encore le multilatéralisme. La grande époque, ça a été en effet l'époque de Deng, mais c'est encore le cas avec des conférences internationales, des classements de toutes sortes, même le classement de Shanghai qui sert maintenant à évaluer les universités.
Les instituts Confucius.
Elle augmente ses échanges, elle porte plainte à l'OMC dans le cadre auprès de l'instance de règlement des différends, etc. Et en même temps, elle ne veut pas d'opposition frontale avec les autres, en particulier avec les États-Unis. C'est tout à fait clair, beaucoup d'amis en Chine qui vivent en Chine me le disent. Les signes sont nombreux, on a demandé de mettre un bémol, de mettre en sourdine la propagande nationaliste, de ne pas évoquer le terme de guerre commerciale, d'adopter un ton très lénifiant,
très consensuel
à l'égard des États-Unis. Et comment pourrait-il en être autrement? Ils sont quand même conscients du rapport de force. C'est encore un pays en développement. Ils font partie des BRICS. Bien sûr, il y a des échanges avec le reste du monde, mais il n'y a pas de sortie très libre des capitaux. Il y a la bourse de Shanghai, c'est une bourse interne. Il y a très peu d'investissements. La bourse chinoise est interne. Il y a très peu d'investissements d'étrangers. Bon, alors, en effet, multilatéralisme, mais au sens où, au fond, c'est encore une stratégie des faibles. Et il faut s'insérer, précisément, pour pouvoir jouer sa carte dans de meilleures conditions. Maintenant, sur les normes, et je voudrais vous donner 5 raisons qui me font douter aujourd'hui, rapidement, que la Chine, pour l'instant, ne peut pas être un leader en matière de normes. D'abord, elle dépose plainte à l'OMC. C'est très bien, elle joue le jeu du multilatéralisme. Mais on oublie les différents procès ou causes que l'OMC a contre la Chine, hein, vol de propriété technologique, de propriété intellectuelle, pillage technologique. Ensuite, c'est quand même un pays qui espionne, qui fait un espionnage industriel à grande échelle et très massif. C'est quand même pas un véritable candidat à un leadership normatif. Technologie d'espionnage, certaines entreprises américaines, enfin AT&T et Verizon n'ont pas le droit de vendre des smartphones Huawei.
Troisième raison,
elle n'est pas interventionniste, c'est-à-dire qu'elle ne frappe pas en dehors de son territoire et de cette zone. Quand on est un leader normatif, il faut être prêt à passer à l'acte. Or, mis à part le contrôle sur Taïwan, la mer de Chine, et le contrôle à l'ouest et les menaces terroristes qui pourraient venir, c'est un pays qui est dans le jeu international, s'abstient, n'est pas du tout dans une position de défense concrète
et
des
normes. Et les deux dernières raisons?
Les deux dernières raisons, c'est que c'est un pays qui est quand même... dont la force repose sur une idéologie qui est affirmée, ça a été clairement affirmé lors du dernier congrès, une idéologie communiste. Et l'ambition des Chinois n'est pas de la diffuser à l'ensemble du monde. C'est, comme l'a fort justement remarqué Daniel tout à l'heure, c'est de montrer qu'un autre modèle est possible en quelque sorte. Il y a la démocratie libérale et il y a un autre modèle, il l'attira, qui l'attira. Mais pour l'instant, ce renfermement idéologique est très très frappant. Et la dernière raison, la plus belle, la plus importante et qui disqualifie à jamais de devenir... un leader normatif, en tout cas dans notre monde tel qu'il est, c'est que qui défend des normes d'égalité de traitement, de justice, doit être exemplaire chez lui. Or, dans Chine, ce n'est pas le cas. Pour être un leader normatif, il faut que les normes et les valeurs aient le même sens partout.
L'exemplarité existe aussi à l'intérieur des frontières. Sylvie Kaufmann, le mot de la fin leadership chinois.
Je voulais juste réagir sur deux choses. D'une part, ce que disait Daniel Cohen tout à l'heure sur la Chine-Afrique et le modèle, le fait que les Chinois s'occupent beaucoup mieux de l'Afrique que les Européens, ce qui est vrai sur certains points. Mais par exemple, si vous regardez le facteur humain, la Chine exporte sa main-d'œuvre.
Et vous parliez de la démographie, vous dites les Africains sont aussi quasiment aussi nombreux que les Chinois. Alors, est-ce que vraiment la Chine a besoin d'exporter sa main-d'œuvre en Afrique ?
En Éthiopie, par exemple.
Et l'Afrique, ensuite,
dans des usines.
Émigre vers l'Europe. Donc là, il y a quand même, on voit bien que c'est pas tout à fait non plus philanthropique l'œuvre, l'entreprise chinoise en Afrique. Par ailleurs, sur la naïveté, dont moi je crois qu'on l'est de moins en moins naïf sur la Chine et cette fascination, maintenant on voit bien l'envers du décor. Le multilatéralisme, on voit bien que ces caractéristiques chinoises en font un multilatéralisme très sélectif. Par exemple, à l'ONU, que la Chine investit massivement, elle investira dans les opérations de maintien de la paix, parce que ça lui permet de positionner ses soldats, mais par exemple, elle n'investira pas dans le Haut-Commissariat aux réfugiés. Voilà. Et pour terminer, je voudrais dire que le principal défi que nous pose l'ascension de la Chine, c'est qu'il remet en cause, et notamment sur le plan technologique et scientifique, il remet en cause notre postulat fondamental, c'est que pour être les meilleurs sur l'innovation, il faut être libre. Et on voit bien qu'ils commencent, je ne dis pas qu'ils sont les meilleurs, loin de là, ils n'y sont pas arrivés, il faudrait y consacrer une autre émission, parce que c'est un débat très intéressant. Mais ce postulat est ébranlé, je crois, par la montée de la Chine.
Merci beaucoup à tous les quatre. C'est l'heure, bien sûr, de nos derniers conseils de lecture. J'ai cité tout à l'heure le livre d'Alice Ekman, La Chine dans le monde, chez CNRS Éditions. Et puis, bien sûr, le livre de Daniel Cohen, Il faut dire que les temps ont changé, chez Albin Michel. Vos conseils de lecture, en avez-vous aujourd'hui, Sylvie Kaufmann?
Moi, très rapidement, puisqu'on parlait de la Chine, il y a un petit livre pédagogique qui est excellent, qui est le Que sais-je de Mathieu Duchâtel sur la géopolitique de la Chine. Et puis il y a, ça n'est pas un roman, c'est un récit de Yan Lan, qui est une chinoise qui fait maintenant partie de la nouvelle nomenclature chinoise, qui est une femme d'affaires très connue en Chine, en particulier dans les milieux français. Chez les Yan, c'est aux éditions Larry, où elle raconte l'histoire de sa famille. Son père, notamment, était l'interprète de Mao en russe. Et elle a passé du temps en camp de rééducation avec sa mère pendant la révolution culturelle. Enfin, elle raconte toute cette odyssée de sa famille chinoise et c'est passionnant.
Formidable. Daniel Cohen, rapidement.
Oui, alors j'en ai deux, pardon. De Julia Cagé, Le prix de la démocratie, pour comprendre, vous en avez peut-être déjà parlé. De Pierre-Rosan Vallon, Notre histoire intellectuelle et politique.
Deux livres complémentaires. Merci beaucoup. Rapidement, Dominique Régnier.
Jean-Pierre Cabestan, Le système politique chinois, aux presses de Sciences Po, remarquable ouvrage d'un grand spécialiste.
Ouais, je vais terminer par un roman, c'est quand même un peu les vacances. Le roman qui vient d'être récemment traduit de Nicole Cross, Forêt obscure. C'est une écrivaine américaine qui a eu beaucoup de succès avec un précédent roman, Histoire de l'amour. Et là, c'est une sorte de quête sur l'identité qui peut s'expérimenter dans une errance ou dans un voyage entre Brooklyn et Tel Aviv. C'est un roman extrêmement attachant et fait avec un véritable art littéraire.
Merci beaucoup Monique Cantos-Ferber, Sylvie Kaufmann, Daniel Cohen et Dominique Régnier d'avoir été nos visiteurs du dimanche. Merci à Marine Beccarelli qui a préparé avec moi cette émission, à Luc Jean Reynaud qui l'a réalisée. Merci à l'équipe technique du jour. À suivre Les bonnes choses de Caroline Bourouet qui nous sert aujourd'hui un savoureux festin de tomates, de madeleine de Proust et de repas bio dans les cantines. À tout de suite Caroline, et puis après le journal de la rédaction 12h45, l'autre nouveau rendez-vous de cette rentrée, Signe des temps de Marc Weisman, pour une émission consacrée à Igmar Bergman. Quant à nous, on se retrouve évidemment et avec joie dimanche prochain, 11h. Passez un bel après-midi et une belle semaine.